Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue dans cette grande salle Scalbert pour cette conférence autour de la discipline positive. Alors discipline positive, comment allier fermeté et bienveillance et encourager nos enfants aujourd'hui? Nos enfants et nos élèves, parce que nous sommes plusieurs à être éducateurs et enseignants dans cette salle aussi. Alors tout cela grâce à Madame de Salaberry, hein, qui nous fait l'honneur de venir ce soir chez nous à Marc-en-Barœul. Des maîtres mots vont être conjugués ce soir. La responsabilité, le respect de soi et des autres, l'autonomie, la coopération, l'ouverture d'esprit, la confiance en soi, la capacité à résoudre les problèmes. Alors, Madame de Salaberry, vous allez vous présenter de manière plus explicite dans quelques instants, mais je peux quand même dévoiler quelques éléments. Vous êtes formatrice en discipline positive sur la région parisienne. Vous animez des conférences, comme ce soir, mais aussi des temps de formation pour les enseignants et des ateliers parents. La notion de discipline positive est née aux États-Unis autour de Lynn Loth et de Jane Nelson. Et les travaux ont démarré aux alentours des années 90, enfin c'est à ce moment-là qu'elles ont mis en commun leurs travaux. Vous-même, vous êtes allé vous former, oui non mais j'ai lu votre CV sur internet. Vous-même, vous êtes allé vous former aux États-Unis, vous êtes revenu dans les années 2010 avec dans vos bagages cette boîte à outils sur la discipline positive. Alors, donc, au nom de toute notre communauté éducative, madame, nous vous souhaitons la bienvenue et puis nous vous laissons le micro. Merci à vous.
Merci. Merci, monsieur Beau. Merci beaucoup de cet accueil. En tout cas, vraiment, accueil exceptionnel ce soir ici à mon égard. Je vous en remercie tous parce qu'il y a eu plein d'acteurs qui sont intervenus. Monsieur Ludiagon d'abord, bien sûr, un grand merci de laisser entrer la discipline positive dans votre vénérable institution. Et c'est vrai que quand vous proposez à chaque jeune, et là je lis un petit passage de votre projet pédagogique, à chaque jeune de votre établissement, en plus bien sûr d'une formation intellectuelle de qualité, d'être heureux et épanoui dans son parcours, heureux d'apprendre, de partager avec les autres, d'être accompagné et encouragé par les adultes qui l'entourent, et de se voir confier des responsabilités, je me dis que la discipline positive a toute sa place dans votre établissement et dans votre communauté éducative, que ce soit les enseignants ou que ce soit les parents. Donc un grand merci en tout cas d'avoir pu proposer cette conférence ce soir. Un merci tout spécial aussi sur la logistique, parce que ça fait des mois qu'on en parle avec Monsieur Corbeau de mettre en place cette conférence. Et ça y est, on y est, on est là ce soir avec toute votre aide. Un grand merci en tout cas de ce support et de pouvoir réaliser ça ce soir. Alors, effectivement, une petite présentation rapide de ma part, mais vous avez déjà dit plein de choses. Je suis aujourd'hui psychopédagogue positive et je suis formatrice certifiée en discipline positive. Et comme vous le dites, je suis sur le terrain de l'éducation, sur la France en général, pour dispenser des ateliers pour les parents, des conférences bien sûr, des formations pour les enseignants, des formations pour les futurs formateurs d'ateliers parents, enfin bref, un peu partout où on peut et on nous demande pour pouvoir véhiculer, transmettre, proposer cette approche qui m'anime aujourd'hui, cette envie de partager tous ces outils de l'éducation. Et non accessoirement, je suis maman de 4 enfants de 25 à 15 ans, et c'est peut-être aussi ce qui m'a amenée à construire ce projet autour de l'éducation, bien sûr. Donc, alors la discipline positive, je vais prendre ma... La discipline positive, vous connaissez peut-être ou vous connaissez pas. Ça fait quelques années, je vous en parlerai après, que c'est arrivé en France, effectivement, d'une envie d'un certain nombre d'entre nous, et surtout de Béatrice Sabaté, la présidente de notre association, qui est revenue dans les bagages des États-Unis après 15 ans aux États-Unis avec cette approche qu'elle a voulu dispenser le plus possible aux parents et aux éducateurs. Donc des supports, des bouquins déjà, qui sont non seulement traduits de l'américain, mais adaptés à notre culture française. Et ça, c'est pas mal parce qu'on vit pas tout à fait de la même façon dans les familles aux États-Unis qu'en France. Donc vraiment très riche, en tout cas, d'apport. Vous avez la chance ce soir d'avoir un certain nombre de livres qui sont là. D'ailleurs, les trois sont là, plus les cartes-outils. Donc si à la fin, ça vous intéresse de prolonger, vous allez pouvoir acquérir ces livres. Donc beaucoup de dans la présence littéraire et beaucoup de présence dans les médias. On a eu la chance, bon le sujet c'est vrai intéresse aujourd'hui, hein, la parentalité ça, il y a une vraie demande et on a eu la chance d'avoir toutes les grandes chaînes, d'avoir des reportages passionnants que vous pouvez suivre d'ailleurs sur notre site. Alors, la discipline positive, pourquoi aujourd'hui peut-être ? Pourquoi on pourrait se poser la question ? Et là, on est parti d'un constat de société, tout simplement. Le premier constat, c'est peut-être le rapport à l'autorité, le défi de l'autorité. L'autorité aujourd'hui dans les maisons, dans les familles, dans les classes, dans toutes les structures éducatives, c'est compliqué. On sort de siècles et de siècles d'un rapport à l'autorité très vertical, d'une autorité de soumission. On a longtemps été comme ça, ça fonctionnait. Autrement dit, les paysans obéissaient à leur seigneur, les seigneurs obéissaient à leur roi, c'était comme ça. Les ouvriers obéissaient à leur patron, les élèves à leurs professeurs, les enfants à leurs parents, les femmes à leur mari. Ça fonctionnait, c'était comme ça. On est passé avec toutes ces années, des années 60, de tout ce siècle où l'homme aussi, il y a eu beaucoup de dissémination avec les guerres, donc les femmes ont dû prendre la main à la maison. Donc toutes ces choses ont fait que le siècle dernier, tout ça, ça a évolué. Le rapport à l'autorité, en tout cas dans la famille, a changé. Les démocraties, bien sûr, toute cette ambiance démocratique, les interdits d'interdire, ça a un petit peu fait voler tout ça en éclats. Le rapport à l'information est important aujourd'hui, c'est-à-dire que nos enfants d'un clic ont plus de savoir sur tel ou tel sujet que nous. Donc c'est compliqué l'autorité aujourd'hui. On a du mal. Et peut-être que de temps en temps, quand vos enfants vous répondent, vous dites « Waouh !» Vous pensez au fond de vous « Mais jamais j'aurais parlé comme ça à mes parents. Waouh !» Et pareil, les enseignants peut-être, d'entendre de temps en temps des élèves qui leur répondent « Mais attends, jamais j'aurais parlé à ma maîtresse ou à mon prof comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, mais c'est ça aujourd'hui. Le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir poser son autorité juste. » Et en fait, les outils phares, les concepts phares de la discipline positive, que sont la fermeté et la bienveillance, peuvent apporter une réponse à ce défi de l'autorité aujourd'hui. Quand on dit fermeté en discipline positive, on parle du respect du cadre, du respect de la situation, du respect de l'adulte, du parent, de l'enseignant, de l'éducateur. Et c'est indispensable. Maintenant, pour que cette fermeté fonctionne, pour que cette autorité soit ressenti de façon juste, il va falloir y allier avec un grand « et » la bienveillance. La bienveillance, c'est un mot très galvaudé aujourd'hui. Pour nous, en discipline positive, c'est le respect du monde de l'enfant. Le respect de l'autre, le respect de l'enfant. Il va falloir, pour que ça fonctionne, qu'on arrive à trouver ensemble un cadre ferme et bienveillant avec les contraintes de chacun et s'employer à que ça fonctionne. Un autre constat, et le deuxième qui nous fait aujourd'hui découvrir et apprécier la discipline positive, c'est toutes ces études aujourd'hui académiques, sur les retours académiques de nos élèves, des enfants, de vos élèves, qui sont pas brillants. Malheureusement, quand on est dans toutes ces études PISA et autres, ça fait mal. Ça fait mal parce que ces enfants, ils bossent, ils travaillent, vous travaillez derrière eux, les enseignants travaillent énormément. Il y a vraiment quand même quelque chose de très démotivant. Et il y a eu des études passionnantes qui ont été faites entre le manque d'encouragement à l'école et à la maison et les résultats scolaires. Voilà aujourd'hui pourquoi peut-être la discipline positive peut être une réponse à tous ces maux d'aujourd'hui. L'autorité avec la fermeté, la bienveillance et l'encouragement qui donne de la force, qui donne du courage, qui donne ce sentiment d'être capable et de pouvoir avancer dans sa vie. Quelles que soient les difficultés, la vie elle va pas être rose, ça c'est sûr. Mais ce sentiment de « je vais y arriver, je suis capable, j'ai confiance en moi ». Et c'est tous les outils de la discipline positive qui nous permettent de développer ça aujourd'hui. Alors, zut. Donc un petit résumé hein, sur la discipline positive. Quand on dit discipline chez nous, c'est vrai que quelquefois, et ça c'est amusant en France, parce que vous parlez de discipline positive et vous avez certains qui bloquent sur discipline, d'autres qui bloquent sur positive. C'est très amusant d'avoir les réactions en face de nous. La discipline pour nous, c'est l'enseignement. Vous voyez, c'est le fait de... Ça vient de disciplina, hein, discipulus, et c'est vraiment l'enseignement. Quand on dit positive, c'est, et ça on va en parler aussi, hein, c'est saisir les défis, les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Se servir de l'erreur pour apprendre. Le droit à l'erreur indispensable. Donc la discipline positive est une pédagogie par l'encouragement. On va être ce soir dans un moment, une soirée découverte, une conférence un petit peu particulière, puisqu'en discipline positive, notre approche est expérientielle. Pour Alfred Adler, et je vous dirai plus tard qui c'est, on apprend par l'expérience. L'expérience, ça veut dire que je vais vous faire vivre des choses. On va être dans une conférence un peu interactive. Je vais de temps en temps avoir besoin de vous pour vivre certaines expériences. Il n'y a aucune improvisation, rien du tout. C'est très simple, je vous assure, il n'y a aucun danger à venir participer ici ou là-haut. On verra comment on s'organise pour certaines activités. Ça permet vraiment d'intégrer. C'est comme ça qu'on intègre pour Adler, c'est en vivant les choses. Alors l'expérience, on va y aller. Je vais vous proposer de vous tourner vers votre voisin de droite et de faire l'expérience suivante. Donc vous vous mettez en binôme si c'est possible, essayez de vous regrouper comme vous pouvez. Et dans ce binôme, ça va faire bouger, ça va être bien déjà. Et dans ce binôme, l'un ou l'une d'entre vous va avoir le poing fermé. D'accord ? Et va garder, enfin, va avoir le poing fermé. Ce que doit faire l'autre personne du binôme, c'est tout faire pour ouvrir ce poing. Sans vous blesser, bien sûr. D'accord? Et vous essayez d'identifier ce que vous ressentez quand vous avez le poing fermé et quand, alors essayez de le, si vous le connaissez, vivez-le dans l'autre sens. Prenez l'autre posture. Parce que les deux postures sont intéressantes. Si par hasard vous l'avez déjà vécu, et vous essayez d'identifier ce que vous ressentez, soit en vous enfermant, bon. Je vous propose un petit retour d'expérience en démarrant par ceux qui avaient le poing fermé. Comment vous vous êtes senti avec ce poing fermé? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? La force? L'envie de résister pour gagner? Quoi d'autre? Défense? Opposition? Défi? Comment? Facilité? Comment? Domination? Un jeu, bien sûr, aussi. Autre chose? Comment vous êtes senti là? Résistance, tension, agressé. Qu'est-ce qui s'est passé pour les autres qui ont tenté d'ouvrir ou qui ont réussi? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi? Juste comme ça? Oui? D'accord. D'accord. Des stratégies pour réussir? Chatouiller? La ruse? Quoi d'autre? Demander. Parler. La force. S'il n'y a pas de poignet cassé, ça va, mais bon. Alors, des ressentis en essayant d'ouvrir, là, ce poignet. C'était comment? Frustration. Challenge. Peur de faire mal. Désarroi. Abandon. Autre chose? Là, du côté, non? Ouais? Autre chose? Pas gagné? C'est ça? Ouais. Alors, vous venez de faire l'expérience du pouvoir. Du pouvoir. Qu'est-ce qui se joue dans ces relations de pouvoir? D'instinct, on se met en résistance pour la plupart d'entre vous. Toutes les stratégies sont possibles, alors que ce n'était pas du tout dans la consigne. D'instinct, on se met en résistance. D'accord? Instinctivement, dans la relation, on se met dans cette notion de perdant-gagnant. Il faut que je gagne. Il ne faut pas que je perde. Qu'est-ce que ça génère derrière ? Ouais. Toute cette force-là, toute cette énergie qui est mise à résister, à lutter, à y arriver, à gagner. Et on est vraiment dans la lutte de pouvoir. Et c'est instinctif, vous l'avez vu, c'est complètement instinctif. Alors vous me voyez arriver avec mes gros sabots, évidemment. Clairement, le chemin de discipline positive, toute cette approche, va nous conduire à sortir de cette lutte de pouvoir. Autrement dit, dans cette relation d'éducation, il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de gagnant. On va être tous les deux gagnants. Et on va trouver notre chemin ensemble. J'ai pas besoin de gagner pour que ce soit, pour que je affirme mon autorité. C'est pas ça l'enjeu. Et c'est pas simple, hein, parce que vous avez vu, c'est complètement instinctif, on y va. Non, on perd pas. On va être tous les deux gagnants. Un vrai nouveau regard sur la relation. Sur notre relation et sur notre rapport à l'éducation. On va gagner tous les deux. Et là, l'énergie, elle va être placée autrement. À trouver des solutions, à pouvoir avancer ensemble et pas contre. Parce que vous avez vu toute l'énergie que ça demande ? C'est épuisant. Donc il n'y en a plus pour le reste. Merci en tout cas de vous être prêté à l'exercice du pouvoir. Alors, pour pouvoir être dans l'encouragement, qui est un peu le thème aussi de ce soir, hein, au-delà du cadre fermeté, bienveillance, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire un petit état des lieux. C'est important de savoir d'où l'on part. Autrement dit, une petite réflexion, et là je vais vous proposer de nourrir cette liste. Quelles sont aujourd'hui vos difficultés, vos défis quotidiens dans les comportements avec vos enfants ? Qu'est-ce qui vous a amené ici ce soir ? Ce sont des petites et des grandes choses. Quelles sont-elles ? Alors, ou vous criez bien fort, ou on vous passe le micro. Je vous écoute. S'il n'y a rien, je ne vous crois pas. Hein. Clairement. Pardon ? Alors, le manque d'écoute, c'est ça le comportement qui vous... D'accord.
Les remettre au travail après l'école.
D'accord. Donc, le manque d'envie d'aller travailler après l'école. Comment ? Le manque de concentration. Le manque de respect. Le manque de motivation. Ah, ouais. Le manque d'écoute, quand on écoute, bien sûr. Oui. Résistance, c'est-à-dire que vous répétez 100 fois la même consigne, évidemment, c'est un petit peu agaçant. Et il ne se passe rien en face, on verra tout à l'heure qu'on a peut-être un petit outil pour ça. Autre chose ? Oui, c'est-à-dire la difficulté, c'est quoi chez les...
C'est de faire un choix d'orientation, par exemple.
Et du oui, coup, donc pour eux, ouais. Choix pour lui, donc eux de ne pas savoir ou...
Voilà.
Ouais. C'est ça, d'accord. Bien sûr, l'orientation, c'est un vaste sujet. D'autres choses ? Ouais, donc c'est le manque de confiance en eux ?
Pour qu'ils aient plus de confiance en eux, oui.
D'accord.
Comment faire pour améliorer ça ?
Donc le manque d'envie chez eux, bien sûr. Autre chose ? Oui, la frustration, bien sûr, à tous les âges. Et oui, toute la vie. Autre chose ? Oui, le manque d'autonomie. Ouais, donc ne pas savoir bien mettre les priorités là où nous, on les voit. Ouais, le manque d'estime de soi, bien sûr. Ça touche le se sentir valable, se sentir... Oui. Oui, l'opposition, bien sûr. Le non, l'opposition tout le temps. En même temps, c'est comme ça qu'ils grandissent, mais c'est pas facile, ça c'est sûr. D'autres choses ? Alors... Liste non exhaustive, mais je me permets pour faciliter un petit peu les choses. Voilà. Hein, vous avez peut-être pas dit tout ça, mais vous alliez le dire. Alors on y est. La liste, elle est là et elle est souvent là. Ça, c'est sûr. Hein. On est tous dans le même bateau. On est tous à répéter 100 fois les consignes. Manque d'attention, manque d'écoute, le non, les devoirs, l'opposition, le mensonge. Ah oui, vous m'avez pas sorti les écrans, c'est pas ton problème chez vous. Ah ben vous êtes formidable, vous allez me dire comment vous faites. Eh ben oui. Alors sachez que le défi est tellement immense que Jen Nelson, qui est donc à l'origine de la discipline positive, elle en a fait un bouquin entier. Bon, malheureusement, il n'est pas encore traduit, mais il y a un bouquin sur la gestion des écrans. Tellement c'est compliqué aujourd'hui, c'est sûr. Donc voilà, on y est. Hein, les réseaux sociaux, le manque de concentration, grandir trop vite, les disputes entre frères et sœurs, bien sûr, frustration, on l'a dit, les comparaisons, les cris, les colères, toutes ces choses qui nous épuisent, nous, en tant que parents. C'est important de pouvoir juste lister et voir que, ben oui, il y a tout ça. Et en même temps, il y a tout ça pour tout le monde. Donc ça fait du bien parce qu'on n'est pas tout seul. Et oui, c'est voilà, c'est notre vie de parent. Et on est là. Donc on est là, on part de là. Nos défis, nos difficultés aujourd'hui, c'est ça. Je vous propose une deuxième réflexion. Là, vous allez vous projeter avec vos enfants qui vont quitter la maison, qui vont aller vivre leur vie. De quoi ? Oui, ça va arriver un jour, je vous promets. Enfin, j'espère. Oui, ça peut prendre du temps, mais normalement, ça arrive. Normalement, ça arrive et normalement, ça se passe bien aussi. Alors, une deuxième réflexion. Donc, ils vont quitter la maison, ils vont aller vivre leur vie. De quoi vous voulez les voir équipés ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient dans leur sac à dos pour aller vivre leur vie ? Quel talent, quelle compétence de vie ? Avec quoi vous voulez les voir partir vivre leur vie ? Oui. La joie de vivre. Ah, yes. La liberté. Le libre arbitre. La confiance en soi. Le courage, l'autonomie. Le respect de soi, des autres. Les deux. Quoi d'autre ? L'ambition. Pardon, des convictions.
Un projet.
J'ai pas entendu. Alors, vous m'expliquerez en termes de compétences. Si, savoir, s'occuper, d'accord. Ok. Mais pas trop souvent quand même. D'autres choses ? L'ouverture aux autres, au monde, j'imagine. Ouais, l'esprit ouvert. L'épanouissement. L'indépendance. La motivation. Du sens dans leur vie, curiosité. D'accord, leur talent qu'ils auraient réussi à découvrir, et oui. La foi. Oui, bien sûr, mais oui, un sens. Ah, dis donc, vous aviez plein d'idées là, c'était super. Vous avez vu un peu comme vous avez été. Alors, même chose, on va voir. Pour les besoins de l'exercice, est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous... Voilà. On y est aussi, hein ? Voilà. Confiance en soi, curiosité, goût de la vie. Persévérance, goût de l'effort, autonomie. Savoir bien s'entourer, respect des autres, respect des règles. Initiative, responsable, savoir rebondir. Libre, savoir partager, savoir s'adapter. Capacité d'écoute, créativité, tolérance, audace, oser. Ne pas avoir peur de l'échec. Humoureux, autodérision, le bonheur, épanouissement, réussite, bagage intellectuel. Apprécier ce qu'ils font. Est-ce que vous vous sentez... avec ça. Est-ce que ça vous convient ? Ouais. Et c'est fantastique. Hein ? Une petite réflexion sur tout ce qui vient de sortir là. Il y a une étude intéressante qui a été faite sur environ 3000 collégiens. À qui on a demandé ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie de collégien ? Être populaire, avoir des amis, avoir des bonnes notes. En grande majorité, populaire, les amis. On est d'accord. Avoir les amis. On est allé interroger leurs parents. À qui on a demandé ? Pour vos enfants, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Est-ce qu'ils soient populaires, qu'ils aient des amis ou qu'ils aient des bonnes notes ? Réponse des parents. Qu'est-ce que vous venez de me dire ? Mais bien sûr, c'est ça que vous avez dans vos tripes. C'est ça que vous voulez pour vos enfants. Ben, eux aussi, ces parents-là aussi. Alors là où ça coince, et c'est là où vous y êtes, on est retourné voir ces ados. À qui on a demandé ? Alors vous savez, on a posé la question à vos parents. Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Ben évidemment. Et c'est là que le bât blesse. Parce que vous, ce que vous voulez pour vos enfants, c'est ça. Et vous l'avez tous dit super bien, très vite, avec le cœur. C'est ça que vous voulez pour vos enfants. Et vos enfants, ils pensent quoi en rentrant à la maison? Les bonnes notes. Ben oui, parce qu'on est rattrapé par l'académique, évidemment. Alors t'as eu quoi? Ça s'est bien passé? T'as eu quoi comme note? Ben oui, c'est comme ça. C'est sûr, on fait comme on peut, c'est sûr. Maintenant, le message derrière, peut-être de prendre le temps, de temps en temps, dans un moment calme et posé avec son enfant, de lui dire, de lui transmettre, de lui partager. Tu sais, moi, ce que je veux pour toi dans ta vie, c'est ça. Avec vos mots, avec votre cœur. Le message d'amour inconditionnel qu'on essaye et, voilà, de faire passer comme on peut. Et à des âges, c'est pas facile. À l'adolescence, c'est compliqué et c'est le moment où ils en ont le plus besoin. Le message derrière ça, c'est juste, oui, ça vous l'avez dans vos tripes. Ça, nous, parents, c'est ce qu'on veut pour nos enfants. En fait, il suffit juste de leur dire. C'est aussi simple que ça. De leur partager à un moment opportun où ils seront un peu attentifs, évidemment. De se poser simplement. Moi, voilà, pourquoi aujourd'hui je suis le parent que je suis, c'est ça que je veux pour toi. Tout simplement. D'accord ? Merci. Un petit parallèle quand même pour vous dire que voilà les compétences développées par la discipline positive. Est-ce que quelqu'un veut les lire ? Tu aurais le micro, non ? Oui, non ? Vous ? Quelqu'un ? C'est pas difficile. A priori, ça vous parle, vous l'avez déjà dit juste avant, normalement. Non ? Bon, monsieur Corbeau, c'est pour vous.
Vraiment ? C'est long. Le sens des responsabilités, autodiscipline, coopération, j'ai pas mes lunettes, ouverture d'esprit, raisonnement et discernement, respect de soi et des autres, compassion et empathie, acceptation de soi et des autres, enthousiasme pour la vie, curiosité, goût des apprentissages, contrôle de soi, patience, humour, résolution de problèmes, recherche de solutions, sagesse intérieure et extérieure, j'imagine, intégrité, honnêteté, estime de soi, intérêt pour l'autre, motivation, capacité de raisonnement, conviction d'être capable.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Alors, par rapport à ça, on n'est pas très loin. Hein. Bon, voilà, ça c'est juste pour dire qu'a priori, vous n'allez pas perdre votre temps ce soir. Qu'on a la même, voilà, qu'on a le même GPS, que ce qu'on veut pour nos enfants, c'est ça. Ce que tend à développer la discipline positive chez nos enfants, c'est ça. C'est ce qu'on veut. C'est ce que vous avez au fond de vous. Et c'est important de le savoir. Donc tous les outils que je vais vous proposer ce soir, toute cette approche va s'employer à développer tout soir. Mon intention ce soir, et c'est vrai que je ne voulais pas partager en début, mais je vous le dis maintenant, mon intention ce soir, au-delà de la joie et le bonheur d'être ici, ça n'est pas de vous convaincre. Je ne vais pas vous expliquer que c'est la meilleure approche du monde. C'est pas ça mon objet. Moi, j'ai vraiment juste à cœur de vous présenter cette approche, de vous proposer cette approche. Il y a sûrement, enfin, il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres moins. Vous allez peut-être sortir de là en disant, bah, tiens, ça, j'ai envie d'essayer. Un outil, un regard, une façon de faire autrement. Ça va être juste ça mon intention ce soir. Et c'est important que, voilà, je vous la partage. C'est pas de vous dire c'est la meilleure. Non. Chacun va pouvoir. Et c'est un petit peu pour moi la force de la discipline positive. C'est qu'on va pas placarder des choses. On va juste proposer aux éducateurs, aux parents, un chemin qu'il va emprunter avec ce qu'il est. Avec ses valeurs, avec sa vie, avec sa famille, et de pouvoir mettre ça et là un outil, un regard, une façon de faire avec ce qu'il est. Et ça, c'est vraiment important dans cette démarche. À mon sens, c'est ça sa puissance. Alors, voilà, j'aime bien cette image. Je ne vous cache pas que quand j'ai fait une conférence à la SNCF, j'étais très fière de la présenter. Je vais vous expliquer ce que c'est. On est là, et ça, c'est important d'en prendre conscience, aussi bien à l'école qu'à la maison. En discipline positive, on aime bien faire le parallèle de ces compétences sociales, psychosociales, toutes celles qu'on a énumérées avant, vous allez appeler comme vous voulez, mais toutes ces choses que vous voulez transmettre à vos enfants pour qu'ils puissent vivre leur vie d'homme et de femme, elles sont indispensables, elles sont, vous voyez, comme les deux rails pour la locomotive qui va avancer dessus, c'est indispensable, c'est parallèle à l'académique. Il ne faut négliger ni l'un ni l'autre. Et on ne peut pas rentrer dans l'académique si les compétences sociales, psychosociales ne sont pas développées. C'est important de le comprendre aujourd'hui. Je pense que justement, on en prend de plus en plus conscience, aussi bien, bien sûr, dans nos familles que dans les écoles. Mais les deux vont de pair. Il faut vraiment que ce soit pour pouvoir avancer dans l'un ou dans l'autre. Il faut cet équilibre des deux. Et c'est pour ça que de plus en plus, quand même, dans les écoles et notamment dans les primaires, on tend à travailler sur ces compétences psychosociales des enfants. Mais le parallèle est vraiment important, hein. Ne négligez ni l'un ni l'autre, les deux vont ensemble. Alors, avant de passer à tout ça, je vais vous laisser mes rails. Et que je vous le disais, on est dans l'interaction. Je vous propose une petite activité maintenant. Très simple. Vous allez juste faire ce que je vous dis de faire. C'est très simple. D'accord ? Il n'y a pas de piège, juste à vivre. Donc vivez et essayez de voir comment vous vous sentez. Donc on va lever les bras bien haut. Allez, on se secoue un petit peu, ça fait du bien. On garde un bras en l'air. On forme un cercle avec le pouce et l'index. C'est bon pour tout le monde ? Tout le monde me voit ? Et ce pouce et cet index, vous allez le mettre sur votre menton. Ah, alors ça y est, c'est le micro qui la gêne ou quoi ? Elle n'a pas très bien compris ce qu'elle dit. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, là ? Ah oui, j'entendais ah oui, d'abord il y en a encore que oui. J'ai ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Comment ? Mais oui, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes senti comment ? Mais oui, vous êtes demandé si vous compreniez bien. Il y en a d'autres ? Moi, j'ai bien compris, c'est elle qui déraille aussi, bien sûr. Quoi d'autre ? Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est quoi le ressenti, là ? Vous êtes... Oui, mais vous ou moi ? Moi ? Oui ? Donc l'autre, c'est... Oui, bien sûr, mais comment on est ? Face à ça ? Oui, un peu sceptique ? Ben oui. Mais oui, merci, je peux me tromper. Mais là, en l'occurrence, c'était pas tout à fait ça. Mais c'est pour vous. D'autres choses ? Comment vous êtes senti ? Désemparé ? Oui, c'est ça ? Oui ? Décalé ? Et oui, c'est pas très confortable, hein. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Et là, on est dans le premier mode d'apprentissage des enfants qui est l'imitation. Alors ça, le message derrière, il est très intéressant. Ça veut dire, tout simplement, qu'en étant le parent que vous êtes aujourd'hui, en vous comportant comme vous vous comportez, en interagissant avec les autres comme vous le faites, vous êtes déjà des modèles, des compétences de vie que vous voulez transmettre à vos enfants. Oh, yes ! Faut que je me tienne à carreau. C'est pas du tout ça le message. Le message, au contraire, il est plein d'espoir. Il est de dire, déjà en étant ce que je suis, aussi bien papa, maman qu'enseignant d'ailleurs, en étant comme je suis, sans mots, sans paroles, je suis déjà en train de leur apprendre et de leur proposer ces compétences de vie qui m'animent. Alors évidemment, vous l'avez bien compris, en vivant cette expérience, que c'est plus simple quand on dit ce qu'on fait ou qu'on fait ce qu'on dit. Ça, c'est sûr. Mais après, c'est la vie. Mais c'est important. Donc, d'essayer de vous dire quelquefois, ben non, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Hein. D'ailleurs, vous voyez bien vos petits, comme ils refont les choses, comme ils apprennent. C'est incroyable. Ils me disent, oh, attends, mais en fait, tu fais ça. Ben oui. J'ai dit ça. Oui, c'est souvent les gros mots, en général. Mais oui, c'est comme ça qu'ils apprennent. Donc, quelquefois, sans mots, en étant ce qu'on est. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous êtes déjà... Voilà, les premiers transmetteurs de vie, les modèles des compétences de vie que vous voulez transmettre. Alors oui, je vous le dis, évidemment, quelquefois, quand il y a un petit peu... Bon, maintenant, on reste les parents, et il y a des choses que font les parents, et d'autres, pas les enfants. On est bien d'accord. Mais c'est déjà juste de prendre conscience de ça. En étant ce que je suis, en faisant ce que je fais, je suis déjà modèle pour mon enfant et pour mon élève. Merci. Alors, là, je vais avoir besoin de beaucoup de monde pour l'activité suivante. Et je vous l'ai dit, hein, c'est une activité riche d'enseignement pour laquelle, si j'avais une vingtaine de parents, ce serait super, qui vont juste se mettre dans la peau des parents, donc ça vous connaissez par cœur, et l'un d'entre vous dans la peau d'un enfant. Et je vous le dis, il n'y a aucune impro, il y a juste des phrases à lire. Donc je compte sur vous, vous venez vers moi. Allez, une vingtaine de parents, l'idéal c'est 22, 23 avec l'enfant, merci. Venez vivre, venez. Alors la question que je me pose, c'est, il va peut-être falloir qu'on monte, je suis désolée, on va prendre un peu de hauteur, mais ce sera plus facile de se mettre là-haut, si ça vous convient, pour comme on va être nombreux, il m'en manque encore, je pense, hein. On n'est pas 23 là. Allez, venez, il y a juste à lire et à vivre. Je vais vous proposer de faire deux lignes de 11 personnes, on va se mettre en V. Oui. Voilà, on va se mettre en V devant l'écran, c'est pas grave. Qu'est-ce qui veut se mettre dans la peau de l'enfant ? L'enfant, c'est simple, il va juste écouter. Merci. Alors, venez là. Venez à côté de moi. Je peux me permettre de vous appeler par votre prénom ?
Martin.
Martin. Merci, Martin. Alors, il manque des parents, là. Là, il y en a combien ? Encore un petit peu là, s'il vous plaît. Non. Enfin, vous verrez. Alors, Martin. Martin, on va imaginer 12 ans, ça vous parle ? Ça vaut bien ? Ça vous rajeunit ? Oui, ça fait du bien aussi. Hein. Martin, c'est très simple. Votre mission du moment, c'est de vous mettre dans la peau de Martin, 12 ans, 12, 14, si ça vous parle, et puis d'aller simplement vous placer devant ses parents qui vont lire ce qui est écrit. Alors vous, les consignes sont très simples, vous lisez comme vous avez envie de lire. Si vous voyez le ton, vous... Enfin, voilà, d'accord ? Les uns après les autres. Donc, voilà, vous allez écouter sans répondre. Juste écouter. 1, 2, 3, 4, il y en a 11. Il faudra revenir pour les deux dernières. Ça vous convient ? Oui, pour les... il y en a encore deux là. D'accord ? Donc, vous, parents, vous dites les phrases comme vous avez envie de les dire. Si ça vous convient, voilà, comme ça, on va vous entendre.
Écoute, tu aurais dû préparer ton sac hier soir. Arrêtez de vous disputer !
Mets ton manteau avant de partir. Il fait froid dehors.
Tu restes à table et tu bouges plus.
Tu ne devrais pas te comporter comme cela avec tes amis.
Arrête de râler et de te plaindre.
Arrête d'être encore sur l'ordi.
À ton âge, tu ne fais pas toujours ton lit ?
Éteins ton portable.
Mets ton linge sale dans le panier.
File prendre ta douche, ça fait une heure que je te le demande.
Alors Martin, si vous avez le courage, venez jusque là. Comment Martin, 12 ans, vous vous sentez ?
Je me sens harcelé.
Harcelé.
On m'aime pas dans cette maison.
On m'aime pas dans cette maison.
J'en ai marre, je suis étouffé. Je vais appeler mamie.
Autre chose ? C'est déjà pas mal.
Ouais,
c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous avez envie de faire une fois ? Alors, vous allez appeler mamie, vous allez partir, vous avez envie de partir ?
J'ai besoin d'être consolée par mamie, parce
oui.
qu'elle comprendra mieux que
ouais.
les parents.
Eh oui. Est-ce que, voilà, ses parents, vous les avez tous entendus ?
C'est un peu la même chose que j'entends aussi chez moi.
Ah.
Oui, j'essaie d'entendre en tout cas.
Vous essayez d'entendre. Ouais. Vous reprenez votre souffle. Merci Martin. Et on y va. Vous êtes prêts pour une deuxième expérience ?
Oui.
D'accord ? Donc même chose, même exercice. Merci.
Est-ce que ton sac est prêt ?
Que pouvez-vous faire pour ne plus vous disputer ?
Tu as vu le froid qu'il fait dehors ? Tu vas mettre quoi ?
Est-ce que tu pourrais arrêter de bouger jusqu'à la fin du repas ?
À ton avis, que vont penser tes amis si tu te comportes comme ça avec eux ?
Qu'est-ce qui ne va pas ? Veux-tu m'en parler ?
Qu'est-ce qu'on avait décidé pour l'ordi ?
Martin, est-ce que l'on peut trouver un arrangement entre nous pour ton lit ?
Quelles sont les règles familiales pour les téléphones à table ?
Je lance une machine. Est-ce que ton linge est dans le panier?
Tu veux prendre ta douche avant ou après le dîner?
Alors, comment vous êtes? Comment vous vous sentez là?
Je me sens plus honoré par là que...
Plus honoré par là qu'en face. Ouais. Ouais.
Il y a plus de la compréhension et on tient aussi compte de mon point de vue. Il y a plus de la coopération et ça me renvoie à plus de responsabilités. Ce n'est pas un ordre unilatéral à sens unique, tandis que ce qui est dit ici me pousse à réfléchir, tandis que là, ça me pousse à réagir. Et la réaction que j'ai, c'est plus les refus, la confrontation. Tandis que de l'autre côté, c'est un peu plus adouci.
Merci. Merci Martin, quelle analyse. Alors on va revenir dessus évidemment, mais bon, enfin, j'allais dire tout est dit, mais oui, tout est quasiment dit, ça c'est sûr. Merci pour ce retour en tout cas. Comme vous avez pu le sentir, ressentir, on est dans l'ordre, on est dans la question. D'accord. Un des premiers outils de la discipline positive, c'est effectivement la question. La question, comme Martin nous l'a très bien dit, elle invite à une réponse. Là où l'ordre, on a entendu aussi, on a juste envie de partir, fermer les écoutilles, ne plus rien entendre. Et quand vous disiez tout à l'heure dans votre liste, mais ça fait 100 fois que je lui dis les mêmes choses, ben oui, mais on est là. Et là, on n'entend plus. Mais on ne m'entend pas ou quoi? Ben non, il n'entend plus. Sa survie, c'est de fermer ses écoutilles. Alors effectivement, hein, donc, ce qu'on peut vous proposer... La discipline positive, ça n'est pas on efface tout et on fait autrement, ça n'est pas magique, ça n'est pas tout ça. Mais quand même, de temps en temps, si ça, ça fonctionne, on ne change rien. Vous ne prenez pas la tête. Si ça, ça fonctionne, on ne change rien. On est dans l'ordre et de temps en temps, ça fonctionne. Si dans votre dynamique, ça fonctionne. Là où on peut vous apporter effectivement un outil intéressant et plein de ressources, vous avez entendu, hein, responsabilité, plein de choses... Quand ça fait justement 25 fois, 100 fois, 1000 fois que vous lui dites la même chose à votre enfant et qu'il ne se passe rien, parce que sa survie, ça a été de fermer les écoutilles, de s'enfermer, de ne plus entendre, parce que là, ce que vous avez entendu, on peut le sortir en une demi-heure à la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une heure de classe, il peut l'avoir entendu aussi plein de fois. Donc, vous voyez, à la fin de la journée, il n'en peut plus. Donc, clairement, le réflexe, là, c'est « je n'entends plus ». Alors, quand il ne se passe plus rien, eh bien oui. Peut-être que là, la solution, c'est de basculer dans la question. C'est d'aller utiliser cet outil qui va inviter à la réponse, qui va inviter à la responsabilisation, qui va inviter à autre chose. Et peut-être qu'au début, votre enfant vous regarde en disant « Attends, là, maman, qu'est-ce qu'elle a, maman, là ?» Ouais. Mais déjà, c'est une autre réponse. Les questions, on est très maladroit au début. On a des réponses, c'est pas du tout ça qu'on voulait. Non, évidemment, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, on a changé de dynamique. On rentre en lien. On reconnecte. Et on va pouvoir avancer derrière. Parce que quand on a vraiment fermé, qu'il y a le mur, qu'il n'y a plus rien qui écoute, la question, c'est vraiment la solution à ce moment-là, en tout cas, qu'on peut vous proposer. Elle l'invite à la réponse. Et ça, c'est scientifique. Ça, c'est ce qui se passe dans le neurone, dans le cerveau, au niveau des neurones. Quand on pose une question, ce n'est pas, pas le même endroit dans le cerveau. Et ça invite à la réponse. Alors que l'ordre, c'est plus compliqué. Ça invite au stress, à la réaction, à l'opposition, à la fermeture. C'est plus compliqué. Mais je vous le dis, hein, quand ça fonctionne, on ne change rien. Mais quand effectivement ça fait des heures qu'on dit la même chose et qu'il ne se passe rien, ben peut-être que la question. Comment vous vous êtes senti, vous, dans ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez des petites réflexions à faire sur ce que vous venez de...
On a l'impression qu'on était un peu une caricature.
Oui, bien sûr.
De ce qu'on fait tout
le
temps aussi.
Oui, dans le jugement. Bien sûr.
Mais après, c'est naturel, ça sort tout seul.
C'est naturel, ouais. Ça sort tout seul. Hein. Les consignes de ton, elles sont sorties toutes seules. Vous avez vu, il n'y en avait pas et on sent que ça part de là. En même temps, ça demande de l'énergie. C'est fatigant. C'est... Ouais.
En fait, on veut juste l'action. On ne veut pas de réponse, on ne veut pas de discussion. C'est fais comme ça, point
exactement. De temps en temps, ça fonctionne. Mais quand ça ne fonctionne plus, il faut trouver autre chose. En fait...
Justement.
Oui.
Que sans s'énerver ou sans crier, il y a
comme s'ils avaient besoin d'un électrochoc et de dire stop, quoi.
Ouais.
Et en hurlant, enfin en criant.
On a l'impression, mais bon, peut-être que. C'est vrai que toute l'énergie que ça nous demande, hein, c'est clair. Hein. Et on est souvent dans cette intonation, dans l'ordre, on y va, on est. Oui, d'autres choses ?
D'énergie, parce que mets ton manteau, va prendre ta douche, va faire tes devoirs. Ben, on le dit tous les jours, voire plusieurs fois
matin,
par jour,
midi, soir.
Ben quand on en a un, deux ou trois.
Ben oui, mais bien sûr. Bien sûr. Alors, quand ça fonctionne, c'est bien, et quand ça ne fonctionne pas, voilà, peut-être qu'on peut faire autrement. Je vais aller en face, merci Martin. Alors, vous, vous êtes senti comment avec vos phrases ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?
C'est plus fluide et assez facile à dire, je trouve. Ça ne pose pas de problème particulier.
Super. Au niveau de... Voilà.
Alors ouais. Moi, je trouve que ça manquait de naturel, pour le coup.
Bien sûr.
Ça ne sortait pas tout seul.
Et non.
Le linge, là, dans le panier, ça ne sortait pas vraiment tout seul.
Eh ben non. Ouais.
On a des attentes et une exigence. On montre une fermeté dans la question. Néanmoins, on attend aussi un retour de l'enfant et qu'il y ait un échange.
C'est ça.
Est-ce que...
Oui. Oui. Un échange. Oui. D'autres choses ? Pas de consigne de ton non plus. Vous avez vu le ton là sur lequel les phrases ont été dites ? Ah bah oui. Et ça, vous avez vu, c'est complètement instinctif. Hein. Vous l'avez fait très naturellement. La question, oui. On est un peu plus dans l'empathie, forcément. Ça invite. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, hein, s'il faut retenir juste une chose de cette activité, c'est le retour de Martin. On est juste là. Vraiment, on est juste là. D'accord ? De ce que les ordres génèrent et de ce que les questions provoquent. Alors, je vous l'ai dit, on reste humain et c'est pas toujours facile et autre. Mais bon, c'est une démarche qui s'acquiert. Et on y est de plus en plus. Et qu'après, vos enfants diront « Arrête avec tes questions !» Oui, peut-être. Bon, on n'en est pas toujours là. Mais alors, les questions, c'est important aussi, parce que quelquefois, on est voilà, un peu noyé sous les questions. Non, mais les questions, c'est bon, quoi. Les jeunes enfants, ça va être des questions fermées. Tu mets tes chaussures rouges ou tes chaussures bleues. Tu prends tes bottes ou je ne sais quoi. Bien sûr qu'on ne va pas poser des questions philosophiques aux enfants. C'est important hein, de mettre le cadre à ce moment-là. Mais quand même, l'enfant aura le choix. C'est important aussi... d'avoir le choix de temps en temps pour les enfants. Vous savez, ces enfants qui sont un petit peu en recherche de pouvoir, eh bien là, vous leur donnez, mais dans le cadre que vous avez posé. D'accord ? Et puis après, effectivement, il faut être prêt aux réponses, de temps en temps inattendues. Et puis voilà, et puis un peu prendre du temps à formuler des questions. Je vous le dis, au début, c'est un peu bizarre. Mais déjà, ce qui peut se passer dans la relation quand on se met à poser une question, voilà, alors qu'on n'en posait pas, qu'on était vraiment dans la dynamique de l'ordre, c'est fabuleux ce qui peut se passer, puis on rigole. Et puis il y a l'humour qui sort, et ça, c'est fantastique. Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ? Non ? Des appréciations ? Ou peut-être dans le public ? Merci beaucoup, en tout cas. Vous pouvez reposer vos petites phrases, prendre des photos, peut-être. Merci, ouais, merci beaucoup, hein, c'est gentil. Ouais. Oui, merci. Merci. Tu peux me les reprendre ? Oui, merci. On va redescendre. Hein, on va... Est-ce qu'il y a des questions sur cette donc un des premiers outils hein,
Ouais, mieux.
Vous m'entendez mieux ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur cette expérience ? Donc de l'ordre à la question. Oui.
Alors moi, je suis maman de deux ados. La question que je me pose, c'est si on a ce principe de question, on ne l'a pas fait dès l'enfance, dès la petite enfance. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour le faire maintenant ?
Alors évidemment, il n'est jamais trop tard. Et en plus, je peux d'autant plus en témoigner que j'ai démarré la discipline positive avec des grands, entre guillemets. Donc non, il n'est jamais trop tard pour mieux communiquer. Jamais. Jamais. Et ma fille, quand j'ai commencé à m'investir dans la discipline positive, ma fille aînée, avec laquelle j'ai eu quelques difficultés, n'est-ce pas ? Et peut-être qu'elle m'a amenée sur ce chemin, me dit « Maman, t'es gentille, mais pour nous, c'est beaucoup trop tard, quoi. » Elle me voyait bosser, mais non, beaucoup trop tard. Bon. Et quelques mois plus tard, j'avançais, je lui dis « Écoute, ouais, ma chérie, mais je vais continuer parce que vraiment, ça m'intéresse. Tu vois, j'ai vraiment envie d'y aller. » Et ma fille revient vers moi, elle me, comme ça, un petit peu rapide,
Ouais, c'est pas mal en fait la discipline positive. Hein. Yes. Et ouais, elle avait 18 ans et yes. Voilà, c'est tout. Mais je vous dis, il n'est jamais trop tard pour mieux nous communiquer. Si vous sentez les choses, si vous avez envie voilà, de prendre ce regard des outils, si vous les sentez, si vous le faites avec juste conviction et amour, voilà, ce sera peut-être maladroit au début, mais allez-y, foncez. Vraiment. Et puis bon, on est, enfin vous verrez avec Adler, hein, on est dans l'éducation, mais on est juste dans le rapport humain. Hein. Clairement, on est dans le rapport à l'autre. Donc tout ça, ça peut se décliner dans la communication. Oui.
Bonsoir. Que fait-on? Que fait-on avec une réponse qui ne nous convient pas?
Alors là, on lance l'impro. Ben, c'est peut-être pas tout à fait ça que je voulais dire. Non, il y a plein de choses. Mais à mon sens, ce qui se passe là, c'est juste la communication, c'est juste l'échange. Donc bien sûr, on va pouvoir avancer, dialoguer. Et quand on vient de l'ordre, ben, c'est quand même intéressant. Mais oui, bah, peut-être que... Ouais, non, c'est pas tout à fait ça que j'attendais. D'ailleurs, le dire, en rigoler, faire de l'humour. Bah, moi, en tant que papa, peut-être que je pensais à ça, à ça. Bah, on en discute. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de la réponse que j'attendais? Et voilà. Mais au moins, on est dans le lien. Oui.
Moi, en fait, j'ai vécu autre chose avec mes parents. C'était ni à gauche, ni à droite.
Oui.
C'était juste les silences. Ah. Mon père, il me faisait comprendre, par exemple, quand il rentrait le matin dans la chambre, je comprenais qu'il fallait que je
lève
pour aller me laver. Quand j'étais en train de traîner...
Alors, faites une vidéo, là, montrez-nous.
Par exemple, quand je traînais sur la table, il n'avait pas à parler, il me regardait.
Ouais.
Alors, je comprenais qu'il fallait que je mange vite.
Ouais. Oui, et ça fonctionnait. Oui,
ça fonctionnait,
mais bien sûr.
Ça.
Mais bien sûr.
Que je quelque chose,
mais
j'avais
oui.
pas besoin.
Mais oui.
J'étais en train de jouer aux jeux vidéo, ben il rentrait.
Eh oui.
Je comprenais, il fallait que j'arrête.
C'est ni à gauche ni à droite.
C'était
mais
le
oui.
silence, pas de communication.
Non, c'est cool quand même. Hein. Il y a moins d'énergie là-dedans. Merci de ce partage. Et ça fonctionnait. Alors maintenant, si vous avez envie de reproduire et que ça fonctionne chez vous, il n'y a pas de problème. Hein. L'idée, c'est que bah, aujourd'hui, quand même. Ça se passe un petit peu autrement dans les maisons. Mais bien sûr, en tout cas, merci de ce partage parce que c'est fantastique. Ça existe peut-être encore. Ça existe peut-être encore. Alors, après avoir bien bougé, je vous fais un tout petit peu de théorie parce que c'est important de savoir d'où ça vient. Cette fameuse discipline positive. Parce que au-delà de ce truc américain, comme on nous a dit au départ quand on est arrivé en 2010-2011, non, c'est un petit peu plus sérieux, j'ose pas le dire, mais un petit peu plus profond que ça, la discipline positive. Alors, au départ, les travaux d'Alfred Adler, 1870-1937, donc vous voyez, ça date pas d'hier, médecin, psychiatre autrichien, il a longtemps évolué dans les cercles viennois, une dizaine d'années, avec Freud, il a été contemporain de Freud, et il a été avec Freud, il s'est très vite, enfin bon, une dizaine d'années, et puis en fait, il s'est séparé parce qu'ils n'avaient pas du tout la même vision de l'être humain, l'un et l'autre. Pour Adler, on ne vit, on évolue, que dans le lien social. Et ça, c'est fondamental, on le verra après. Cela dit, Adler, puissant, profond, mais, comment dire, une pensée confuse, une théorie très dense, et pas très accessible hein, pour le commun des mortels. Alors, la bonne idée, c'est que Rudolf Treckers, pareil, hein, psychiatre, autrichien également, donc un petit peu plus jeune, hein, il est mort en 72, lui, avec un regard sur tous ses travaux d'Adler, nous a modélisé sa pensée, nous l'a rendue accessible. Il a écrit des livres, d'ailleurs, qui sont malheureusement plus édités. Ils ont été, hein, d'ailleurs, dans les années 70. Mais on peut les trouver. Hein, sur passionnant. Treckers, passionnant. Il nous a vraiment rendu lisible toute la psychologie adlérienne qui, vous verrez, est très, très contemporaine. Là-dessus, alors ces deux hommes sont partis au moment du nazisme hein, aux États-Unis. Ils ont fui le nazisme et se sont installés vers Chicago, où là, Treckers a, pendant des années jusqu'à sa mort, construit un centre éducatif où il a beaucoup étudié, aussi bien dans les familles, l'approche adlérienne, aussi bien dans les familles que dans les écoles. Donc, des travaux passionnants, des livres passionnants. Et là-dessus, deux docteurs en éducation, Jen Nelson et Lynn Lott, ont, avec leur regard pragmatique, avec le regard, pratico-pratique américain qui, de temps en temps, nous aide bien, on construit, on définit cette discipline positive aujourd'hui, qui on construit cette approche, ces formations, ces ateliers. Tout ça, ça a été bien pensé sur ces fondements adlériens et on a en même temps quelque chose de digeste. Vous voyez, tous nos ateliers sont construits un petit peu comme ce qu'on vit ce soir, donc avec des activités, avec de la théorie, on alterne, on apprend par l'expérience, donc beaucoup d'expérience. Donc ça, c'est ce que nous ont permis Jen Nelson et Lynn Lott. Jen Nelson, elle a 7 enfants. Donc, elle a un terrain. Bon, maintenant, elles ont 80 ans toutes les deux, quand même. Mais alors, elles sont sur le terrain, elles sont incroyables. Parce que la discipline positive, oui, ça, c'est intéressant aussi de le savoir, passe toutes les cultures. On est aujourd'hui dans une expansion de la discipline positive absolument exceptionnelle. Et notamment en Chine. On n'a quand même pas la culture, enfin, l'éducation la même. Ça, en Chine, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud, alors aux États-Unis bien sûr, mais incroyable, incroyable comme ça peut passer les cultures. Tout ce lien, tout cet humain qui est transmis, toutes ces relations, tout ce lien social qui est proposé en discipline positive passe toutes les cultures et donc un petit peu toutes les familles du monde entier. Donc ça c'est... Alors, on parle de principes adlériens. Et oui, quels sont-ils ? Donc, les fondements de cette discipline positive. Je vous le disais, l'être humain est un être social. Et ça, c'est important. L'être humain ne peut se construire, ne peut évoluer que dans le lien, que par le lien social. Pour pouvoir évoluer convenablement, il a deux besoins essentiels et existentiels. C'est celui de contribuer et d'appartenir. C'est ce qui sous-tend toutes nos actions, toutes nos réactions. Ce besoin de contribuer et d'appartenir à la communauté dans laquelle j'évolue. La première communauté d'un enfant, c'est sa famille, ce sera ensuite l'école, ce sera ensuite le club de sport. Et toute notre vie, on va évoluer dans des communautés. Et pour pouvoir avancer de façon adaptée dans ces communautés, on a ces deux besoins essentiels de contribuer à la communauté et d'appartenir, de me sentir appartenir à cette communauté. L'approche est holistique, pensée, émotion, comportement. Vous l'avez peut-être ressenti, mais dans les ateliers, on le vit vraiment. On vous demande sans arrêt, qu'est-ce que tu ressens ? Parce que c'est un vrai déclic. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est comme ça qu'on fonctionne, je vous en parlerai après. C'est comme ça qu'on agit. Ça va très très vite, mais c'est ce qui se passe. On ressent, on pense. Et souvent, en France, on reste là. Non, on propose de descendre. Voilà, descendant ce qu'on ressent. Et ensuite, après, on agit. Fort de ce qu'on ressent, de cette pensée, on agit. Fermeté, bienveillance, je vous en ai parlé en introduction, hein, donc je vous rappelle, hein, fermeté, on est vraiment dans le respect du cadre, respect du monde de l'adulte, le respect de la situation, et c'est indispensable. On a besoin de se sentir respecté dans ce cadre en tant qu'adulte. Et bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut y allier la bienveillance. La bienveillance, c'est le respect du monde de l'enfant. C'est pour ça qu'on met un grand « et », parce que l'un ne va pas sans l'autre. Respect mutuel et égalité sociale, ça c'est important aussi. On avance, et bon, bien sûr, c'est décliné dans la bienveillance et dans la fermeté. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, on reste le parent, on reste l'enseignant, il reste les enfants et les élèves, c'est sûr. Mais on a le droit au même respect. On va avancer de façon, vous voyez, se sentir l'un et l'autre respectés. C'est comme ça que ça va fonctionner. C'est comme ça qu'on va sortir tous les deux gagnants de cette relation. Tout comportement a un but. Et ça, c'est important. On agit de façon complètement inconsciente, toujours avec un but en nous. Pour illustrer, alors bien sûr, tout ça, c'est sous couvert de l'encouragement, de cette force, de ce courage d'insuffler cette force, ça, ce sont vraiment ce qui sous-tend toute la psychologie adlérienne, c'est l'encouragement. Alors, pour illustrer, tout comportement a un but. La logique interne, selon Adler. Autrement dit, comment on fonctionne. Alors, pour essayer de comprendre ce qui est écrit là, on aime bien, et voilà, avec Jen Nelson, ça a du sens, prendre, par exemple, l'expérience de cette maman qui rentre de la maternité, qui a déjà, un petit garçon à la maison, 4-5 ans, et qui rentre, comme avec un petit bébé que je vois dans le fond, de la maternité, avec une petite fille. On va s'occuper de l'expérience du petit garçon, qu'on va appeler Paul. Qu'est-ce qu'il vit, Paul, de maman qui rentre de la maternité, avec une maman un peu fatiguée, une petite Joséphine qui prend beaucoup de place, qui fait du bruit? Que vit Paul? Qu'est-ce qui se passe pour Paul? Oui, il se sent abandonné. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle est un peu accaparée. Ouais, elle s'occupe de son bébé, bien sûr. Elle le nourrit, enfin, elle la nourrit. Comment? Elle l'a dans les bras tout le temps. Ben oui, souvent en tout cas, bien sûr. Alors, de cette expérience, de ce que vit Paul, donc qu'est-ce qu'il perçoit? Effectivement, il se sent un peu abandonné, il voit que maman est très accaparée, qu'il y a forcément un petit peu moins de temps pour lui, ça c'est sûr. Alors, de ce qu'il ressent, de cette perception, et ça c'est indiscutable, il perçoit quelque chose. Quelle peut-être la croyance de Paul? Alors, plein d'idées, mais j'entends pas. Maman ne m'aime plus. Ben oui. Comment? Maman m'abandonne. Elle n'a plus le temps. Je l'intéresse plus. Ben oui, j'ai de la concurrence. Et ça, c'est ce qu'il croit. Donc ça, c'est ce qu'il a dans la tête. Et oui, pourquoi pas? Alors, pensons ça. Qu'est-ce qu'il va faire, Paul? Qu'est-ce qu'il va avoir, enfin, qu'est-ce qu'il va faire? Crier. Quoi d'autre? Bah oui, bébé. Des bêtises, bien sûr, pour qu'on s'intéresse à lui. Attirer l'attention d'une façon ou d'une autre. Demander un biberon. Pleurer la nuit. Toutes ces choses, voilà. Désobéissant. Et de ce comportement, avec une maman de plus en plus fatiguée, qu'est-ce qui va se passer? L'expérience suivante, ça va être quoi? Bah oui, maman va s'énerver, épuisée, va sûrement, oui, crier, dire des choses pas très sympathiques. Et du coup, perception de Paul, on se renforce. La croyance, eh bah oui, vraiment, elle m'aime pas, hein. Et donc, et on est parti dans un cercle vicieux. La discipline positive nous apporte un regard avec la compréhension de cette logique interne. La force, c'est de pouvoir regarder, de mettre un focus sur le comportement de cet enfant. Et d'essayer de changer de regard. Oh là, il fait des bêtises, il m'énerve, il crie. Ok, oui, oui. D'essayer sur ce comportement qu'on appellera inapproprié, inadapté, de comprendre quelle est la croyance de cet enfant pour pouvoir agir sur cette croyance et repartir dans une dynamique positive. On va aller voir au-delà. Quelle est la croyance erronée, bien sûr. Bien sûr que maman l'aime encore. D'aller travailler sur cette croyance erronée de l'enfant pour repartir dans une dynamique positive. On a une merveilleuse grille de lecture qu'on appelle des comportements inadaptés, inappropriés, que Dreckers nous a construite, avec laquelle on vit, de nombreux psychologues travaillent avec pour essayer de comprendre ce qui se joue chez certains enfants. Et c'est vrai que les comportements, Dreckers les a rassemblés sous 4 rubriques. L'attention, attirer l'attention. Alors un peu ça va, mais trop c'est compliqué. Le pouvoir, la maîtrise, prendre le pouvoir, décider. Pareil, un peu de pouvoir c'est bien, trop c'est compliqué à gérer. La revanche, rendre les choses égales. Moi enfant je souffre, donc je vais te faire souffrir. Maman, papa, enseignant. C'est pas forcément toi qui me fais souffrir, mais moi je vais te faire souffrir parce que moi je souffre. C'est ma stratégie. Et enfin le découragement, de baisser les bras, j'en peux plus quoi. Je ne fais plus. Donc, avec cette grille fantastique de lecture des comportements inappropriés que nous propose Dekkers, d'ailleurs qui est dans le bouquin. On va essayer, on va comprendre ce qui se joue dans cette relation de maman avec cet enfant, de papa avec un enfant. Comprendre ce qui se joue pour pouvoir agir sur la croyance et essayer de casser cette croyance erronée pour pouvoir avancer et sortir de cette dynamique. Voilà comment on avance. Tout simplement, pourquoi ça, cette logique, c'est tout simplement pour répondre aux deux besoins essentiels, appartenir et contribuer. Et de temps en temps, c'est de façon inappropriée pour certains enfants. Et c'est ce qu'on va essayer de travailler avec nos outils discipline positive. Ouais, le message derrière cet enfant qui attire l'attention, n'en peut plus, qui veut toujours commander, qui veut toujours décider, qui alors se sent, qui est vraiment pas bien et qui nous fait souffrir, mais vraiment non mais attends, elle me fait encore ça, c'est pas possible quoi, qui est en détresse, et l'autre qui est complètement découragé, qui a baissé les bras. Le seul message de cet enfant, c'est je veux appartenir, mais je sais pas comment faire. C'est ma stratégie du moment. Je suis pas équipée pour faire autre chose. Donc le regard qu'on va porter, c'est d'essayer de comprendre quelle est cette croyance pour pouvoir avancer dans une dynamique positive. C'est très puissant, c'est très fort. C'est ce qu'on trouve voilà, de fantastique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de psychologues qui travaillent avec nous aujourd'hui. Et en même temps, c'est complètement atteignable. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'on a compris la démarche, une fois, on avance. Et surtout, il y a toujours une solution, en fait. C'est ça qui est fantastique, c'est toujours plein d'espoir. Il y a toujours une solution. Et tout ça, ça nous permet d'être dans l'encouragement, de pouvoir travailler, de pouvoir avancer. Alors, justement, pour que ce cycle adlérien soit vertueux, le cycle précédent qu'on a vu, il va falloir aider l'enfant à développer un certain nombre de compétences pour pouvoir évoluer de façon appropriée dans chaque communauté, dans chaque cercle dans lequel il évolue. Les compétences que propose Adler pour une vie scolaire et familiale efficace et significative, pour que ça ait vraiment du sens pour cet enfant, ce sont celles-ci. Alors, pour ne rien rater, quand on dit « je suis capable » dans ces compétences essentielles de l'enfant, ça veut dire que j'ai une solide perception de mes capacités. Et je peux réagir aux contraintes de la vie quotidienne avec responsabilité et adaptabilité. Et là, on est tout simplement dans la confiance en soi. Alors ça, c'est un chemin, on est bien d'accord. Mais voilà l'objectif. Quand la compétence, je contribue de façon significative et on a réellement besoin de moi. Autrement dit, je mesure mon importance dans ma relation avec mes proches, donc j'existe et j'appartiens. Et donc je contribue. J'ai une influence sur ce qui m'arrive et je sais me contrôler. Et ça c'est important. Je peux reconnaître et comprendre mes émotions et je sais les maîtriser. Et enfin, je sais vivre avec les autres et je sais évaluer les situations. Je peux vivre, communiquer, coopérer avec empathie et écoute. Un vrai chemin de vie. On parle de l'enfant, on pourrait parler de l'être humain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un vrai chemin de vie. Mais c'est avec le développement de ces compétences essentielles pour l'enfant qu'on va pouvoir lui proposer d'avancer avec une logique interne appropriée. Un tout petit focus sur justement pouvoir développer ce sentiment d'être capable, par exemple. Et ça, c'est important. Ne faites pas. Dekkers nous dit, ne faites pas pour un enfant ce qu'il est capable de faire tout seul. Vous lui enlevez des opportunités d'apprentissage. Surtout, on laisse faire. On le laisse faire. Mais on le laisse faire, ça ne veut pas dire débrouille-toi. Non. Les étapes de l'apprentissage, elles sont en dessous. Je montre à mon enfant. Je fais avec l'aide de mon enfant. J'aide mon enfant à faire. C'est lui qui est moteur. Je regarde mon enfant faire et je l'encourage. Voilà les étapes que propose... Vous voyez, petit à petit, on avance doucement et on est dans l'encouragement. À chaque étape, on est dans l'encouragement. On fait avec, jusqu'à ce qu'il puisse faire tout seul. D'accord ? Oh ! Ça, c'est merveilleux. Alors, les trois piliers d'un cadre ferme et bienveillant. Pour être dans l'encouragement, pour être dans pouvoir proposer à nos enfants, à nos élèves, de pouvoir évoluer de façon appropriée dans leur communauté, que sont la famille ou l'école ou autre, on a en discipline positive, on propose un cadre ferme et bienveillant avec trois piliers. Le premier de ces piliers, ce sont les lignes de conduite. Les lignes de conduite en discipline positive, c'est comment on va fonctionner, c'est-à-dire dans notre famille, de quoi on a besoin pour que ça se passe bien. On va se poser, bien sûr, dans un moment calme et détendu. Non, c'est pas, voilà, il faut que ce soit quand même un bon moment. Et de prendre le temps d'échanger entre soi, entre nous, de quoi on a besoin dans notre famille pour que ça se passe bien. Pour être bien, pour être heureux d'être à la maison, pour que tout le monde se sente respecté. Et on se pose et on peut se faire une petite liste. Et ce sera nos lignes de conduite dans la famille. Ça prend du temps, ça se fait pas forcément en une fois. On peut revenir dessus, on peut les travailler. Ah oui, s'écouter. On pourrait dire s'écouter. Mais s'écouter, ça veut dire quoi? Et de rentrer comme ça avec ses enfants, de pouvoir échanger, s'écouter, ça veut dire quoi? Pour l'un, pour l'autre, de partager. Et là, on est tout simplement dans le développement de ces compétences de vie qu'on souhaite transmettre à nos enfants. De pouvoir en parler. Comment on fait? On peut avoir des lignes de conduite ponctuelles. On part chez grand-mère, c'est toujours compliqué, on passe une semaine, comment on fait pour que ça se passe bien? De quoi on a besoin? Vous les enfants, nous les parents, de quoi on a besoin? On a un long voyage à faire en voiture, c'est toujours l'horreur. Très compliqué, ça se termine jamais bien, jamais dans la bonne humeur. On a ce long voyage, de quoi on a besoin tous pour que ça se passe bien? Et on se pose. Alors oui, on est dans l'anticipation, oui, on prend le temps. Mais chacun est exprimé. Et ce qui se passera pendant le voyage aura été du coup plus ou moins décidé, donc accepté. Ligne de conduite. En famille, de façon ponctuelle, de façon générale, ces lignes de conduite, on les fait faire dans les classes, bien sûr. Merveilleux. De quoi on a besoin pour que cette année de sixième soit la meilleure du monde? Et là, les enfants ont plein d'idées. Fantastique. Plein d'idées. Après, il faut les trier, évidemment. On va en garder, allez, entre 3 et 5. Et on va rentrer dedans, ces compétences. Ce sera s'écouter, on a plein de jolies choses qui sortent. Se respecter. Ah, le respect, c'est quoi le respect? Ça veut dire quoi, se respecter? Et là, on prend le temps de rentrer dans le développement de ces compétences de vie. On dit quoi, on fait quoi quand on se respecte? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Et on prend le temps de rentrer. Tout simplement dans l'acquisition de ces compétences. Donc les lignes de conduite. On aime bien appeler ça les lignes de conduite en discipline positive et non les règles, parce qu'en fait, on tend vers. On va tout faire pour y aller. Mais on reste humain, il y a des erreurs, on fait ce qu'on peut. Voilà, voilà pourquoi on appelle ça des lignes de conduite. On a un deuxième pilier, que sont les responsabilités. Les responsabilités dans les maisons, dans les classes, c'est très puissant aussi. À établir ensemble. Voilà. De quelle responsabilité on a besoin dans la maison? Et on liste. Et puis alors, maman et papa, on marque tout ce qu'on fait, hein, bien sûr. Ce qui est important, c'est d'y être tous. On est tous dans cette communauté. Et ensuite, ok. Alors on voit que ça fonctionne, on vérifie qu'il y ait tout ce dont on a besoin, nous parents, eux, enfants. Et ensuite, qui fait quoi? Voilà. Ça prendra plus ou moins de temps à que les uns et les autres prennent. On propose de les faire tourner, ces responsabilités. On fait la même chose dans les classes, bien sûr. Alors, ça peut vous paraître anodin ou pas. Mais le message très simple derrière cette liste de responsabilités qui aura été un joli poster qu'on va mettre sur le frigo, c'est que le prénom de cet enfant devant une responsabilité, le message derrière, et pareil dans la classe, c'est tout simplement... On compte sur moi pour. Et ça, en termes d'appartenance, c'est très important. Et je me souviens d'une maman en atelier parent qui me dit « Non, mais moi, les responsabilités, non. De toute façon, je travaille pas, j'ai 2 enfants, je me bats tout le temps pour tout. Donc non, moi, les responsabilités, c'est pas mon truc. » Pas de problème. Si c'est pas votre truc, pas de problème. Et on avance, donc on a des séries de 7 ateliers. Et elle revient vers nous 2-3 ateliers plus tard en nous disant « Vous savez, en fait, j'ai bien réfléchi les responsabilités, je les ai proposées à mes garçons. On les a mises en place ensemble. l'ambiance de la maison, dans la maison n'est plus la même. On est une famille. Waouh, c'était très puissant quand elle nous a raconté ça. Et bon, elle vivait des moments, c'était pas facile. Et oui, ces petits messages derrière, c'est ça. Alors bien sûr, à faire vivre comme vous pouvez, les faire tourner, après, on fait ce qu'on peut, ça c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est le message derrière, de ce que ça représente. Les lignes de conduite, je vous l'ai pas dit, mais c'est pareil, vous faites un joli poster. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en DP, en discipline positive, on refait la déco dans la maison. Il y a des posters partout. Il y a des jolies choses partout, c'est merveilleux. Donc les lignes de conduite, et puis vous pouvez demander à un enfant très créatif de vous les faire un joli dessin, un joli poster, c'est super. Pareil pour les responsabilités. Et puis de valoriser les responsabilités, ça permet de dire à un enfant de l'encourager. Oh, merci d'avoir vidé le lave-vaisselle. Vous voyez, on est dans l'encouragement. De valider tout ce qui va. Ouh, ben oui, ça fait du bien. Les rituels, les routines. Alors ça, c'est très précieux, ça. Et puis vous allez voir, à n'importe quel âge, dans les départs du matin, la matinée avec des enfants où on se prend la tête, où on crie 25 fois de faire la même chose, on n'en peut plus, on est déjà épuisé avant de partir. Eh ben oui. Le soir, pareil. Le retour, le goûter, autre. L'horreur. Avant le dîner, l'horreur. Après le dîner, l'horreur. Pour l'ado quand il rentre, l'horreur. Ouh, je crie, je dis, mais bon sang. Ben oui, non. Alors là, on se pose. Quel que soit l'âge, on se pose et vous verrez qu'on adapte. Du réveil au départ à l'école, qu'est-ce qu'on a à faire? Et puis on détaille avec les plus petits. On fait des dessins, on prend des photos, on écrit, on met dans l'ordre qui vous convient ou qui leur convient. Et on établit la routine. Est-ce que tu es OK avec cette routine? On la construit ensemble et ça c'est important. On la construit ensemble. Est-ce que tu es OK avec cette routine? Ça permet le matin ou le soir quand on rentre. T'en es où dans ta routine? Au lieu d'aller hurler, t'as pas mis tes chaussures? Hey, la dynamique est pas la même, hein. Et même chose, l'étape qui a été bien respectée. Ben super, t'as mis tes chaussures, c'est quoi l'étape d'après? Et on avance, et on est dans l'encouragement très précieux. Avec les ados, pareil. Et je sais pas si vous avez vu leur petit reportage de, je crois que c'était France 2, qui a été fait dans une famille, qui avait mis les outils de discipline positive en place. Et notamment cet enfant qui devait avoir une douzaine d'années, 12-14, la journaliste voit au-dessus de son bureau, et il avait des petites choses comme ça, plastifiées comme ça, avec des tas de choses à faire, et puis un petit scratch, et il posait. Il y avait 6 ou 7 actions. Ça devait être goûter, jouer, travailler, douche, dîner, enfin des petites choses comme ça. Et puis la journaliste vient le voir et lui dit « Attends, tout ça? Tu fais tout ça tous les soirs ?» Et l'enfant de répondre « Ben oui, c'est moi qui l'ai décidé. » Eh ouais, la routine avait établi avec ses parents, avec sa maman, avait été... Alors, la petite chose qu'il avait, le petit pouvoir qu'il avait dans sa routine, c'est qu'il y avait des scratchs. Donc, il pouvait éventuellement jouer avant le dîner, jouer après le dîner, je ne sais pas. Il avait cette petite liberté-là, dans le cadre. Dans le cadre. Les enfants adorent. Mais on est dans le cadre. Vous voyez, fermeté, bienveillance. On respecte son rythme, mais dans le cadre. Avec une exigence. À 20h, on est à table. L'exigence dont on a besoin, nous, parents. Mais, voilà, de permettre cette petite, ces petites choses, donc ça marche. Enfin, c'est un bel outil qui permet, je vous dis, de moins crier, de moins s'énerver, de pouvoir encourager à des moments où on l'imagine même pas. Le matin, quand on est dans la furie du départ, ou le soir, quand il rentre. Les routines de revenir à la maison. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre? On établit ça ensemble. En plus, c'est des merveilleux moments de partage en famille. Merveilleux moments. Alors, ça vous parle? Les lignes de conduite, les responsabilités, les routines, les rituels. De jolies choses pour mettre son cadre en place, de façon ferme et bienveillante, en famille. Et vous y mettrez ce dont vous avez besoin, selon votre famille. C'est ça qui est important, c'est que vous allez pouvoir, bien sûr, vous approprier ça. Ça vous parle? Vous êtes en train de faire tous les posters à la maison, là? Non, mais le week-end prochain. Mais bon, ça se fait doucement. Hein. Il faut prendre le temps, des bons moments, quand on est posé. Mais c'est très puissant, ça aussi. Alors, Ça permet d'encourager. J'aime beaucoup cette image là, et puis surtout cette phrase de Drekkers. L'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. C'est vraiment un carburant, l'encouragement. Un carburant pour grandir. Un carburant pour avoir de la force. Alors évidemment, cette fleur, on va l'arroser tous les jours un petit peu. Bon, elle va pas fleurir tous les jours. Mais c'est comme ça. D'accord ? Et ça renforce ce sentiment d'être capable, de pouvoir avancer dans sa vie, de se sentir en capacité de vivre la vie qu'ils vont avoir, et elle sera pas facile. C'est pas ce qu'on veut dire, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais juste de s'en sentir capable d'avancer dans sa vie. Alors, d'où nous vient cette idée un peu folle qu'il faut d'abord qu'un enfant se sente moins bien avant de faire mieux? Alors là, c'est un petit focus sur la punition, qui ne sera pas le sujet de ce soir, mais juste entre parenthèses, clairement, ni la punition, ni les récompenses ne sont des outils de discipline positive. Ça, je vous le dis tout de go. La punition, telle qu'on l'entend, en tout cas, dans le faire payer, on n'est pas dans le faire payer, on est vraiment dans la recherche de solutions en discipline positive. Mais ça, on pourra en faire une séance. Le message très important aussi sur cette page, les enfants font mieux lorsqu'ils se sentent mieux. Pour bien faire, on a besoin de se sentir bien. On est tous pareils. D'accord ? Alors, parce que c'est bien beau tout ce que je vous dis là, tout ce dont je vous parle. Mais effectivement, pour bien faire les choses, pour pouvoir poser ses lignes de conduite, pour pouvoir faire ses responsabilités, pour pouvoir poser des questions de façon bienveillante, ben, il faut qu'on se sente bien. Il faut être bien. Et on reste humain. Avec voilà, nos bons moments et nos mauvais moments. Alors l'outil que je vais vous présenter maintenant, c'est peut-être celui qu'on devrait présenter en premier, mais moi je vous le présente à la fin, pour être sûr qu'il reste bien dans votre crâne, parce que c'est peut-être le premier qu'il faudrait adopter dans notre démarche de parents et d'enseignants. Et pour cela, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Alors, je vais essayer de bien faire les choses. Et en plus, ça fonctionne, normalement.
Bonjour, je vais vous faire la démonstration du cerveau de Daniel Siegel. Daniel Siegel est un neuropsychiatre américain qui a modélisé le cerveau dans la main. Il utilise l'avant-bras comme étant la colonne vertébrale, et puis quand on rabat le pouce sur la paume de la main, c'est ce qu'il appelle le tronc cérébral ou le cerveau moyen, et c'est le siège, la partie limbique du cerveau, le siège des émotions et des réactions en cas de stress, soit l'attaque, l'immobilisation, la fuite. C'est la partie qui régule aussi toutes les fonctions automatiques comme la respiration, la digestion et toutes les émotions. Quand on rabat les doigts sur le cerveau, la partie devant est dans le front, c'est ce qu'on appelle le cortex. Le cortex, c'est la partie du cerveau qui permet de raisonner, de penser, de décider. Et la partie sur les ongles, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est le siège des fonctions supérieures du cerveau. Le cortex préfrontal permet la régulation des émotions, permet la moralité, la prise de décision, l'organisation, la logique. C'est vraiment toutes les parties qui sont très importante au niveau de l'intelligence du cerveau et de la prise de décision. Lorsqu'on est en colère, ce qui se passe dans le cerveau, c'est ça. On est déconnecté de notre capacité à s'organiser, de notre capacité à être logique, de notre moralité, de notre empathie, de notre flexibilité, et on est en prise directe à notre stress, à notre réaction en cas de stress, soit l'attaque, la fuite, l'immobilisation. Physiologiquement, dans le cerveau, on est donc incapable de raisonner, on est incapable d'être logique, on est incapable de prendre des décisions. Donc ce qu'on propose en discipline positive, c'est de prendre un temps pour se recentrer. Juste le temps que le cerveau puisse avoir accès de nouveau à toutes ces fonctions supérieures du cerveau, soit l'organisation, la moralité, l'empathie, la prise de décision, la logique et la capacité à trouver des solutions. Il existe un phénomène qui s'appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ce qui fait que quand on ouvre la bouche, qu'on donne à manger à un bébé, le bébé ouvre la bouche. Quand on bâille, la personne en face de nous bâille. C'est situé à cet endroit-là, dans le cerveau. Et ces neurones miroirs font que lorsqu'on est en colère, qu'on est en réaction de stress, la personne en face de nous, en 10 secondes, est dans le même état. J'arrive le soir à la maison et mon fils laisse traîner ses chaussures. Si j'ai une journée moindrement fatigante, chargée de stress et d'émotions, il y a toutes les chances qu'en 10 secondes, je sois comme ça, je commence à crier, à lui dire « Comment t'as pas rangé tes chaussures? J'ai failli me casser la figure !» Et en 10 secondes, lui est comme ça, et là, c'est l'escalade. Ça monte, ça monte, ça monte. Ce qu'on propose en discipline positive, c'est un temps pour se recentrer. Ce temps, on l'appelle le temps de pause. Donc, c'est de prendre un moment pour avoir de nouveau accès à notre capacité à raisonner, à notre logique, à notre empathie, à notre moralité, à notre capacité à prendre des décisions. Enfin, pour les adolescents, il a été démontré scientifiquement que les connexions neuronales ne sont pas terminées. L'adolescent est donc comme ça. Il est beaucoup plus facilement en prise directe à ses émotions et à ses réactions en cas de stress, soit l'attaque, la fuite, l'immobilisation. Et que beaucoup plus facilement il se déconnecte et beaucoup plus facilement il perd donc son empathie, sa moralité, son raisonnement, sa logique. Ce qui peut expliquer parfois certaines prises de risques. Le cerveau de l'adolescent et ses connexions se terminent à 25 ans.
Ça, c'était avant qu'on nous dise hier, je crois aux infos, ils ont parlé de 24 ans. Non, nous, on était plutôt à 25 ans. Et oui, temps de pause. Temps de pause, un merveilleux outil, vous avez compris, hein, à mettre en place avant tous les autres. C'est-à-dire que pour être en capacité de poser une question, d'être en empathie avec son enfant, il va falloir être connecté dans notre cerveau. Et clairement, après une sale journée, dans des moments où on est fatigué, vous avez compris ce qui se passe, pof, on est déconnecté. Avec les neurones miroirs, en peu de temps, on est tous les deux déconnectés. Et là, est-ce qu'on se parle gentiment? Est-ce qu'on fait des plans sympas pour le week-end prochain? Pas vraiment. Il se passe rien de bon. Peut-être qu'on dit des choses qu'on regrettera. Peut-être que voilà, on fait des choses qu'on regrettera. Alors là, oui, c'est de prendre le temps, ce temps de pause. Et ce temps de pause n'étant rien laxiste. Le but, c'est d'être capable de gérer la situation après. Et ça, c'est très important. De trouver ses ressources. Qu'est-ce que vous imaginez comme temps de pause pour vous? Qu'est-ce qui vous aide à redescendre quand vous êtes parti dans les tours? Qu'est-ce qui vous aide à redescendre? Ça, c'est déjà la première étape du temps de pause. Identifier ce qui nous aide à redescendre. Ça peut être quoi? Un thé? Respiration? Marcher? Une musique douce? Un point d'ancrage? La méditation? Du chocolat? Eh oui! Comment? Non, mais vous verrez, avec une sieste, quand on peut. Ce sont ces petites choses que vous allez pouvoir identifier pour vous, qui vont vous aider à redescendre. Et ça, c'est déjà important de l'identifier. Qu'est-ce qui m'aide à redescendre? À me reconnecter à la capacité à gérer mes émotions et donc la situation. Première étape. Ce sera des petites choses, comme vous l'avez dit, hein, de changer de place, de respiration. Pour pouvoir mettre de façon posée ce temps de pause dans la famille, je vous propose déjà de le partager en famille. Cette vidéo, vous la retrouvez sur YouTube. Il y en a aussi des plus imagées pour les plus jeunes enfants, avec le livre de Daniel Siegel, des petites vidéos très imagées. Déjà de partager qu'il y a des moments où on peut pas gérer et que c'est physiologique. C'est très apaisant quand même. On n'est pas nul, on n'est pas... Non, on peut pas. Il y a un moment, on peut pas. Ça déborde. On pète les plombs. Les plombs sautent. De savoir que dans ces cas-là, on n'est pas capable de bien réagir. Ça, c'est important aussi. De se laisser le temps de redescendre et de se reconnecter pour pouvoir gérer la situation. Donc déjà, pouvoir soit identifier ces choses qui nous font du bien, pouvoir mettre en place pour nous notre temps de pause, de le partager avec ses enfants. Moi, tu vois, quand je sens que je vais péter les plombs, que les plombs vont sauter dans ma tête, voilà de quoi j'ai besoin. Première étape. Partager avec ses enfants. Le faire, bien sûr. Ouais. Là, je vais pas gérer. Là, j'ai besoin de mon temps de pause. Et puis, vous prenez les codes que vous voulez. Vous faites des signes. Voilà, mais on a un signe. Voilà, on se fait un signe. Là, c'est je peux plus gérer. Je vais mal gérer. Donc, j'ai besoin de mon temps de pause. Et c'est clair. Les jeunes enfants, quelquefois, ils ont un peu de mal parce qu'ils voient maman peut-être se retourner, aller dans sa chambre ou autre. Jen Nelson, elle allait dans sa salle de bain. Et puis, ses enfants mettaient la main dessous. Donc, forcément, au début, ça, voilà. Ils comprennent pas très bien. Mais une fois qu'ils ont bien identifié que le but, c'est que maman aille mieux, que papa aille mieux pour pouvoir gérer la situation derrière, c'est très clair. Ça permettra ensuite de proposer aux enfants, et toi, quand tu sens que tu vas exploser, qu'est-ce qui t'aide à redescendre ? Maîtrise de soi, compétence de vie essentielle et difficile à acquérir quand même. Eh oui, toute une vie ça. Hein. Ouais. Mais déjà on la travaille comme ça. Qu'est-ce qui t'aiderait quand tu sens dans ces moments-là ? Identifier et de voir son enfant. Peut-être que là tu aurais besoin de ce que tu as dit, de prendre un verre d'eau, d'aller sur ton lit, de prendre ton doudou. Peut-être que là ce serait le moment. Alors je me souviens d'une maman en atelier qui me dit « Non mais moi mes temps de pause, mais les temps de pause, moi les enfants ils le font, hein. Je leur dis « Va dans ta chambre te calmer !» Alors madame, oui on va tout reprendre du début. Non, vous avez compris que c'est pas tout à fait ça quand même. Même si le temps de pause pour l'enfant c'est d'aller dans sa chambre. Mais c'est pas comme ça qu'il y sera allé, vous avez compris. Hein, ça aura été identifié par lui comme quoi c'est ça. Et peut-être que là c'est le moment de temps de pause, merveilleux temps de pause. Une belle, vous voyez, alors on est avec les enfants, c'est pareil pour le mari, hein, quand vous voyez le mari comme ça, ou votre femme comme ça, vous n'y allez pas, vous allez perdre toute votre énergie, il ne va rien se passer de bon. Avec les collègues, c'est pareil, vous faites demi-tour et vous attendez ça, parce que c'est pareil, vous allez perdre plein d'énergie. Vous vous laissez le temps, voilà, que les choses soient... Parce que comme vous avez vu avec ces neuromiroirs, la probabilité c'est que ça monte en escalade. Donc que soit on prenne la même chose, c'est ce qui se passe aussi avec nos enfants. Quand nos enfants sont comme ça, nous, très vite ça démarre. Hein. Alors, temps de pause c'est très bien. J'imagine que maintenant, avec cet outil-là, vous n'allez plus jamais crier, jamais rien dire. Et non, peut-être pas. Évidemment, on reste humain. Et de temps en temps, voilà, la marmite elle va exploser et ça devient difficile. Alors... La bonne idée et la bonne nouvelle, c'est qu'en discipline positive, on a toujours un moyen de réparer. Alors peut-être que vous allez crier moins fort, peut-être que vous allez moins crier, mais il y a toujours une fois où ça va déborder parce que là, vraiment, vous n'en pouvez plus et que voilà, vos ressources font, votre vase énergétique fait que vous allez quand même crier, peut-être, dire des choses, faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire. Clairement, ne pas être le parent que vous avez envie d'être, mais là, c'est plus fort que vous, vous ne pouvez plus parce que vous êtes déconnecté. D'accord, à la capacité à gérer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a ces fameux 3 R de la réparation. Autrement dit, et le premier est pas le plus facile, la responsabilité. Eh oui, je reconnais. C'est-à-dire que ouais, ce qui vient de se passer, clairement, j'ai pas pu faire autrement. J'étais tellement énervée, je t'ai crié dessus. J'en suis désolée. La réconciliation, je suis désolée d'avoir crié. Et enfin, la... Résolution, troisième R. Mais maintenant, ce qui s'est passé et la situation dans laquelle j'ai trouvé la maison en rentrant est absolument inadmissible. Il va falloir qu'on trouve une solution pour que ça ne se reproduise pas. On est en recherche de solutions. On est dans la connexion, dans la bienveillance avec les deux premiers R. Dans la reconnaissance. Et déjà, ça, c'est merveilleux aussi de montrer, ben oui, maman de temps en temps, papa de temps en temps, il fait des erreurs. Il maîtrise pas. C'est très apaisant aussi, parce que le modèle du parent parfait, c'est lourd pour les enfants. C'est lourd pour nous, c'est lourd pour les enfants. Jen Nelson nous dit « Ayez le courage d'être imparfait ». Et oui, on reste humain. Donc là, oui, clairement, j'ai crié. Clairement, j'ai dit des choses que je regrette. J'en suis désolée. J'ai pas pu faire autrement à ce moment-là. Et ça, c'est important. Et là, on est dans la fermeté avec le troisième R. Mais maintenant, ce qui s'est passé, il faut pas que ça se reproduise. Donc on va trouver une solution. On va chercher ensemble comment on fait la prochaine fois. D'accord ? Et on est avec nos 3 R de la réparation. On aime bien toutes ces petites lettres en discipline positive. Temps de pause, 3 R de la réparation. Vous avez tout dans le bouquin si ça vous intéresse, c'est un peu sur le site. Un tout petit focus sur les ados avant de se séparer. Parce que voilà, c'est quand même une phase pas facile. Un lien à tenter de conserver, en tout cas à faire le mieux possible Alors, on aime bien cette vision en discipline positive, pilote ou copilote de leur vie. On vous propose, pour rester en lien, pour être en lien avec son ado, d'être à l'écoute de façon sincère. Se donner et lui donner le droit à erreur. Ça, c'est vraiment important, hein, ce courage d'être imparfait. Fondamental hein, dans cette démarche. Être du côté de son ado avec ce message d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que là, on est dans cette, vous vous souvenez, de cette lutte de pouvoir. Non, on va être tous les deux gagnants dans ce qui va se, dans ce qui se passe entre nous. Et ça, c'est important. Remplacer la critique et l'humiliation par l'encouragement. C'est tentant, c'est facile. Mais qu'est-ce que ça fait comme mal et comme dégâts? Impliquer l'adolescent dans la recherche de solutions. Plus il sera acteur, plus il aura envie de suivre ce qui a été décidé. Passer des accords dans le respect mutuel. Passer des accords, c'est un très bel outil en discipline positive. On vous explique tout le processus dans les ateliers pour les parents. Et bien sûr, et toujours, mais ça c'est vrai à tous les âges, hein, mais c'est vrai qu'à l'adolescence c'est compliqué, s'assurer que le message d'amour inconditionnel est entendu, est toujours là. Et souvenez-vous, c'est ce que vous avez là avec vos enfants. Souvenez-vous de la première liste. Et oui, malgré tout, être parent est aussi une joie, il y a beaucoup de bonheur, même si voilà, c'est difficile, on a la pression, on fait ce qu'on peut. C'est aussi une joie, ne pas l'oublier tous les jours. Un petit récapitulatif des outils qu'on a balayés ce soir, le temps de pause, les 3 R de la réparation, responsabilité, réconcilier, résoudre, être modèle des compétences que l'on veut transmettre, être dans la question plutôt que dans l'ordre, dans le dire, les questions de curiosité, la recherche de solutions, toujours, on avance, on va trouver une solution tous les deux, on va avancer ensemble, exprimer sa confiance, comprendre les attentes et les besoins de l'enfant, la bienveillance, établir les limites indispensables, connecter avant de corriger, passer des accords plutôt que des règles, écouter sans jugement et sans résoudre, impliquer l'enfant dans un esprit de coopération, communication respectueuse et se mettre dans une relation gagnant-gagnant. Voilà pour ce soir. Ce que je vous propose maintenant, voilà, c'est juste une petite de tout ce qu'on fait, de tout ce qui est possible, de tout un site, disciplinepositive.fr. Allez-y, il y a plein de choses chouettes. Il y a toute notre revue de presse qui est impressionnante et passionnante, mais ça fait du bien. Le livre, donc vous allez trouver là, hein, les livres d'ailleurs, ados, parents solo, le dernier qui est sorti, les petites cartes outils. Vous allez aussi avoir une proposition d'atelier pour les parents. Vous avez la chance d'avoir des animatrices d'ateliers parents qui sont là ce soir, merci, qui sont dans votre région et qui vont vous proposer des dates avec peut-être de volonté avec l'appel ou non de pouvoir avoir des ateliers pour les parents dans votre établissement. Donc ça c'est merveilleux. Parentalité dans les entreprises aussi bien sûr, des formations pour animer des ateliers, voilà, à Lille on revient en mars et pour les enseignants, tout plein de choses, mes coordonnées si besoin. J'allais dire, je pense que je vous ai tout dit, non, parce qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures, mais en tout cas, je voulais juste pour terminer, vous proposer de croiser les doigts, croiser les mains. D'accord? De prendre conscience du pouce qui est au-dessus. Ouais. Et puis de changer. D'intervertir les pouces. Non. Comment vous êtes là? Pas bien, c'est pas naturel. C'est l'autre qui va mieux. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ça. De changer. Et là, vous êtes simplement dans l'expérience du changement. C'est pas confortable. Autrement dit, si vous avez envie de vous lancer sur ce chemin, de tenter ça et là, un outil, une approche, un regard, une façon de faire, et ben au début, ça va être comme ça. C'est-à-dire que ça va pas être confortable du tout. Mais que c'est normal. Et que pour ce soit bien confortable, ça va prendre du temps. Et que c'est normal. C'est juste le temps de l'apprentissage. Donc gardez confiance. Si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous parle, ne lâchez pas. Allez-y. Faites-le. Et prenez ce beau chemin de la discipline positive. En tout cas, un immense merci pour votre participation, pour votre présence ce soir. J'ai été très heureuse d'être là. Merci beaucoup. Merci.